La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
L'été arrive à grands pas, le soleil est revenu, enfin on espère qu'il va rester, et ça veut aussi dire que les producteurs de la planète du jazz seront bientôt en vacances.
Nous espérons que vous aussi, vous serez bientôt en vacances.
Tout ça pour vous dire que nos émissions vont s'arrêter pendant l'été, comme chaque année, et que la dernière d'avant l'été sera le 26 juin. Elle tombe bien d'ailleurs, c'est une très bonne date.
Oh, le mystère reste entier.
Le mystère restera entier. Et nous allons nous plonger une dernière fois, donc avant l'été, dans notre dictionnaire des titres, où nous en étions quand même à la lettre T. Et nous ouvrons le feu avec un chanteur de blues assez spécial.
Il a un nom amusant, ou plutôt un surnom amusant. Il s'appelle Petey Whitstraw. Alors, Whitstraw, ça veut dire brin de paille.
Oui, comme certains ici se font appeler Fifi Brindosier ou choses comme ça. Évidemment, là, Petey Whitstraw, vu la date de sa mort accidentelle, nous ne l'avons pas connu puisqu'il avait disparu depuis 2 ans, l'année de notre naissance. Mais il avait un autre surnom.
Oh là là, beaucoup moins mignon que brin de paille. On le surnommait...
Le gendre du diable. Alors, ne nous demandez pas pourquoi, nous n'en savons absolument rien. Et nous allons entendre Petey Whitstraw, qui est un des bons chanteurs de blues de son époque, hein, dans un morceau qui s'appelle...
Third Street's Going Down.
C'est-à-dire...
Le blues de la troisième rue qui tombe.
Eh bien, figurez-vous que l'explication de ce titre un peu bizarre à première vue est que... Cette troisième rue, déjà, se situe dans un faubourg plutôt malfamé et insalubre de East St. Louis. Tu sais que Petey Whitstraw est originaire de là-bas.
Et que c'était tellement moche et malfamé que finalement, il avait été fortement question de détruire ce quartier.
Et même la question de détruire est arrivée à terme, puisqu'il a effectivement été fichu en l'air.
Mais lui, le pauvre homme, eh ben, il est mort avant la démolition du quartier.
Oui, il n'a pas vu ça, parce que c'est là où il habitait quand même. Il n'a pas vu ça, il est mort juste avant, et il n'a donc pas vu sa maison et le bout de sa rue, parce qu'il était tout au bout de la rue, dit-on, transformé en plateforme autoroutière. Et, chose étonnante, il est mort exactement au même endroit où Bessie Smith avait eu elle-même son accident mortel quelques années plus tôt.
Il y a des lieux qui ne sont pas à fréquenter, vous voyez.
Ben, vraiment pas, hein, vraiment pas. Third Street's Going Down.
To have luck in the valley, but the girls had to move way out of town. We used to have luck in the valley, but the girls had to move way out of town. Some moved in the alley, well, because Third Street is going down. I had a girl on St. Louis Avenue, but Third Street she hung around. I had a girl on St. Louis Avenue, but Third Street she hung around. But the law got so high, well, until Third Street is going down. I woke up one morning, my face all full of frown. Wake up one morning, my face all full of frown. Ah, now the mama baby, ooh, well, Third Street is going down. Here, Mr. Keeley, to put a highway through that part of town. I said the city hired Mr. Keeley to put a highway through that part of town. I told the girl to move, well, because we'll turn Third Street down.
Le morceau suivant, c'est avec Jimmy O'Brien. Il a un titre curieux, il s'appelle 38 and 2, ce qui veut dire 38 plus 2.
Ah, mais j'ai une explication là, comment ça fait 38 plus 2?
Eh bien, ça fait 40.
Eh bien justement, 40, ça se dit 40, mais 40 veut également dire superbe, magnifique.
Ah, voilà. Petit jeu de mots, donc.
Petit jeu de mots, d'ailleurs, surtout que ce superbe et magnifique s'adresse naturellement, dans l'esprit des messieurs qui emploient ce mot, à la gente féminine.
Ce Jimmy Bryant, c'est un blanc, on pourrait dire, égaré chez les Noirs.
Ah oui, c'est un drôle de loulou. On ne sait à peu près rien de lui et on ne possède qu'une seule photo. Et encore, cette photo, nous l'avons découverte assez récemment. C'est-à-dire que jusqu'à l'avoir vu, nous pensions que Jimmy O'Brien était un clarinettiste noir de Chicago, puisqu'il n'a enregistré et joué qu'avec des Noirs. Donc, surtout à l'époque, on se mélangeait très peu. Mais pas du tout, cette photo nous a montré un Irlandais un peu sec, mais avec une tronche d'Irlandais absolument incontournable. Donc Jimmy O'Brien était vraiment un descendant d'Irlandais ou Irlandais lui-même, égaré dans le quartier sud de Chicago, et ayant appris la clarinette, à mon avis, en total autodidacte, et en écoutant les autres. Et ce morceau est un très bel exemple de ce qu'on appelait les race records, c'est-à-dire les disques pour noirs. Et vous pourrez apprécier, nous ne passerons pas souvent des morceaux comme ça dans notre émission, mais vous pourrez apprécier à quel point, techniquement parlant, il est horriblement mal enregistré.
On en est désolé pour vous, mais c'est un exemple sociologique, n'est-ce pas?
Et aussi combien il gratte parce que les disques Rush Records qui ont été récupérés pour les rééditions...
Oui, ils étaient tellement écoutés.
Ils ont beaucoup servi. Hein. Ils ont beaucoup servi parce que les Noirs les écoutaient jusqu'à ce qu'on entende la face B en passant la face A. Voici 38 plus 2 égale...
40.
Voici maintenant un couple pittoresque. Il y en a d'autres, des couples pittoresques, mais celui-là n'est pas mal. Le mari s'appelle Will et la femme s'appelle Lil. Et Lil et Will Brown formaient un duo vocal. Ils chantaient volontiers en duo, mais quelquefois, le mari prenait le piano et accompagnait son épouse.
Et le titre du morceau qu'on va vous passer, il est amusant parce qu'il évoque quelque chose de tout à fait interdit. C'est « Three Chord Moon Blues », c'est-à-dire…
Le bonto. Alors, il n'est pas exclu que Will et Lil Brown soient un couple qui ait également vécu du bonto.
C'est-on. Pour votre information, parce que je pense que vous êtes des personnes clean vis-à-vis de la loi et que vous savez peut-être pas ce que c'est que le bonto.
Si vous vous baladez dans une foire ou au marché aux puces ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde dans la rue et que vous voyez un type derrière une petite table avec dessus trois cartes qu'il manipule à toute vitesse, eh bien, vous êtes tombé sur un joueur de bonto. Et là, surtout, gardez les mains dans vos poches, ne dites rien et regardez.
Et oui, parce qu'en réalité, c'est un truc pour plumer le plus facilement possible le pigeon.
Parce que l'art du joueur de bonto consiste à retourner une carte et à demander au public où elle est passée.
Il retourne un as de cœur, il faut absolument, sur les trois cartes, savoir où est l'as de cœur, qui est bien sûr retourné au moment où on le demande.
Et après, les cartes sont manipulées à toute vitesse, et bien malin, qui peut arriver à gagner au bonto, sauf la personne qui est de mèche avec le joueur de bonto, qu'on appelle le baron, et qui, lui, est le premier gagnant pour amorcer la pompe.
Oui, après, les autres se disent « Oh, il a gagné tellement, formidable !» Bon, et ils y vont.
Alors, est-ce que Lil Brown était la baronne de Will Brown ?
C'est
mystère. On ne sait pas. En tout cas, elle proclame, elle, qu'elle est la femme au bonto. Nous étions dans les jeux de hasard, enfin de hasard. Nous allons y rester, nous voici aux courses, avec un morceau qui s'appelle...
Three Horn Parlay.
Parlay, c'est un système de paris qui consiste à ramasser vos gains si vous avez gagné au premier événement sur lequel on a parié, ajouter une mise et parier l'ensemble sur un second événement, et ainsi de suite. Et si vous êtes vraiment doué, au cinquième ou au sixième, vous avez une sacrée pelote, et si vous gagnez là, vous êtes le meilleur.
Oui, mais dans la réalité, vous pouvez aussi perdre de façon cumulative.
Ah, ça c'est sûr. Alors c'est tout l'intérêt et l'exaltation du parlay.
Et avec cette analogie d'accumulation, eh bien là, c'est amusant parce que les musiciens arrivent peu à peu, l'un après l'autre, comme un pari cumulatif.
Et c'est pour ça que ce morceau s'appelle « Le parley à trois souffleurs ». Là, c'était l'orchestre du trompettiste Rex Stewart qui comportait, pour la circonstance, un saxophone alto qui s'appelait Earl Bostic. Il faut dire un mot d'Earl Bostic, quand même, qui est un vrai phénomène, qui a fait ses débuts professionnels à 15 ans, mais tout en continuant des études de musique à l'université, et qui était capable, comme le dit John Coltrane, de jouer dans n'importe quel ton, à n'importe quel tempo, et dans un registre une octave au-dessus du registre normal du saxophone alto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doigté officiel pour ce que Bostic jouait quand il allait dans le suraigu comme ça.
Et pourtant, cet homme-là jouait simple, direct, je dirais populaire.
Là, on vient de l'entendre jeune, mais c'est allé en grandissant au fur et à mesure de sa production. C'est un type très célèbre un peu plus tard.
Il jouait beaucoup, beaucoup pour la danse.
Lorsque Earl Bostic avait 20 ans, il dirigeait déjà son propre orchestre. Et le critère pour y entrer était d'être placé devant n'importe lequel des 150 arrangements de l'orchestre et de pouvoir le jouer à vue, à la première lecture, au bon tempo.
Exigeant, le gars. Hein,
exigeant, exigeant. Un jour, on racontera comment Bostic est devenu la première fois célèbre et comment il est monté à New York. En attendant, nous voici avec Jelly Roll Morton pour le morceau suivant qui s'appelle...
Oh là là, je dois le dire avec le ton. Tijuana.
Tijuana est une bourgade mexicaine à la frontière de la Californie, c'est-à-dire un endroit où se passe beaucoup de trafic, et ça date pas d'aujourd'hui.
Mais quand j'ai pris ce ton loukoum, c'était parce que Jelly Roll Morton y avait une bonne amie qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée.
Qui s'appelait, ou qu'il a surnommée, Mama Anita. Et cette Mama Anita, il lui a non seulement dédié des solos de piano, mais il a également composé un morceau en l'honneur de sa dentition réputée. Et ce morceau, qui est très joli d'ailleurs, que nous avons passé déjà dans cette émission, s'appelle...
The pearls, ce qui veut dire oh, tes dents sont des petites perles.
Alors, avec tous ces souvenirs cumulés, eh bien, Jelly Roll Morton a composé ce morceau qu'il vous joue en solo et qui s'appelle donc
Tijuana.
Est-ce que tu te souviens des Double Six ?
Je sais que c'était un groupe de chanteurs français.
Qui étaient six ?
Qui étaient six, voilà.
Mais pourquoi double ?
Eh bien parce que je crois bien me souvenir que ces gens-là se réenregistraient, faisaient des bandes réenregistrées qui leur permettaient de se dédoubler.
Mais c'est tout à fait ça. Quelle culture ! Quelle culture !
Isn't it ?
Et en fait, ils multipliaient les voix grâce à ça. Et tout ça se passait sous la direction de la célèbre Mimi Perrin, par ailleurs traductrice éminente de livres Hendrick, je te signale. Mais chanteuse très connue, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé, je crois, avec Michel Legrand et avec la sœur de Michel Legrand. Toujours est-il que les Double Six se sont emparés d'arrangements connus du répertoire et d'arrangements instrumentaux, mais en remplaçant chaque instrument par une voix.
Et là, le titre du morceau, c'est Tickle Too.
Tickle Too, ça veut dire littéralement « chatouiller les orteils ».
Et il faut savoir que c'est une petite comptine anglaise, mais totalement connue dans le monde anglo-saxon, une comptine pour bébé, où on compte les petits doigts et on les chatouille en même temps.
Mais chez les jazzmen où il n'y a pas de bébé, ou alors le mot baby est tout à fait différent en ce qui concerne son acception. Eh bien, Tickle Too désigne un danseur enthousiaste et passionné. C'est un arrangement célèbre du répertoire de Count Basie, et voilà ce que les Double Six en ont fait. D'ailleurs, vous allez être très heureux, car pour une fois, tout ça se passe en français.
Il s'agit de toute une histoire en forme de polar qui raconte une aventure un peu sombre.
Une sorte de règlement de compte. Enfin, ouvrez bien vos oreilles.
Tu travailles ou pas d'affolement, viendra la foule et tout ira bas. Tu auras tout à l'heure, mon ami, sur la panne, et bien tu t'en iras là.
Ben, tout de même, moi je ne voudrais pas monter pour un bonhomme mandibulaire ou dame dans le tap. Permettez-moi vous parler de mon aventure avec la mandario.
Tu travailles ou pas d'affolement, viendra la foule et tout ira bas. Tu auras tout à l'heure, mon ami, sur la panne, et bien tu t'en iras là.
Tu ne peux pas pourtant, crois-moi bien, pas l'abri pour très longtemps, car dis-toi.
Bah vous voyez, je vous l'avais dit, ne pas tant vous mouiller pour moi. Tout a débuté dans un petit bar au fond du port par une belle après-midi, oui. Pour avoir longtemps trop bavardé, pauvre malin, pourtant vraiment on ne m'avait rien demandé. Tout est bon, car il y avait parole d'homme, une poupée, pas mal de tout. Le nom de moi, je me gardais, ayant tout le temps la belle dent pour deux mois. Elle m'a demandé, mais dans mon petit, oui. Parlons d'aller nous balader, moi je le voudrais, mais pas, tu n'en doutes pas. Pas tout trouveras les gardiens dans la. Ouais, tu les verras te tirer une balle en dos. Pour le moment, c'est embêtant, car les voilà qui viennent d'entrer, pas d'enfuis, pas devant. Tu y as moins qu'un temps, puis pas de mode parlant. Et voilà comment les gars, pour l'amour d'une pépée, je la tirerai ton beau battant.
Pardon, 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 pardon. Pardon, 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 pardon.
Voici maintenant un grand moment de musique.
Et oui, je crois que tu penses que c'est un des plus beaux morceaux d'Armstrong.
Et même le plus beau, et je ne suis pas le seul à penser comme ça. C'est un morceau dramatique, et pourtant, c'est un titre rigolo.
Puisque c'est « Tight like this », ce qui veut dire « serré comme ça ».
Nous ne commenterons pas le titre, l'exégèse ne s'impose pas, mais, argotiquement parlant, dans le jazz, ça veut dire
« superlativement bon ».
Et dans cet enregistrement, qui est effectivement superlativement bon, il y a quelque chose de tout à fait typique de cette musique-là, c'est qu'au moment où vraiment le côté sombre et dramatique arrive à son comble et où tout le monde va craquer, il y a une voix qui se fait entendre et qui vient replacer tout ce qui se passe dans le « on ne se prend pas au sérieux ». Ça, c'est assez génial.
Jugez vous-même.
Tied like that either.
I say it is tied like this.
Let it be tied like that then.
Aimez-vous le poulet ?
Eh bien, on va vous en parler.
Le meilleur endroit pour le poulet rôti à Harlem, le poulet à emporter. Hein.
À l'époque, hein, parce que maintenant, vous pourriez toujours chercher. Hein.
Oui, des poulets, vous en trouvez, mais ce n'est pas les mêmes du tout. Ça s'appelait chez Tilly, et le nom exact était le Tilly's Chicken Sack, c'est-à-dire...
Le poulet à emporter, tout simplement.
Et un beau matin, cet endroit qui était considéré comme le meilleur poulet de tout Harlem... a déménagé en lisière.
Ils en ont pleuré, les pauvres gars.
Ah oui, ils en ont pleuré, parce que Uptown, c'est une chose, c'est Harlem, mais Downtown, c'est vraiment...
C'est ailleurs.
Et donc, un morceau a été composé et enregistré à l'occasion de cette triste circonstance.
Et qui s'appelle « Tilly is Downtown Now ». Oh là là.
C'est-à-dire, ben maintenant, Tilly est en ville basse.
Oui.
Voilà, c'est tout bête. C'était enregistré par l'orchestre de Bud Freeman avec un excellent trompettiste dont nous avons parlé en d'autres temps qui s'appelait Benny Berrigan.
Et là, si vous tendez bien l'oreille, vous verrez qu'il y a des petits trucs d'enregistrement.
Oui, parce qu'un enregistrement, il faut aussi le gérer au point de vue des instruments, quelquefois des chanteurs. Parce que quand un chanteur quitte la trompette pour venir chanter au micro, par exemple, il y a 5 secondes, il faut qu'il se déplace sur la pointe des pieds, à l'époque surtout. Hein,
c'est ça. Et il faut meubler pendant ce temps-là.
Et là, le chef d'orchestre, Bud Freeman, est clarinettiste et saxophoniste ténor. Donc on l'entend d'abord à la clarinette, et puis après, plus loin, au saxo ténor. Mais il voudrait terminer son arrangement avec la clarinette. Donc, à la fin du morceau, on entend que le saxo ténor s'arrête, le trompettiste prend le relais pour quelques mesures, et ça se termine avec le clarinettiste présent dans l'enregistrement.
Voilà, vous êtes au courant de tous les petits détails.
C'est des petites choses, ça se passe vachement sur la pointe des pieds. D'ailleurs, la pointe des pieds, on va y revenir un peu plus tard. Voici Lionel Hampton. Lionel Hampton avait pas mal d'amis et des amis fidèles qui lui étaient très chers.
Dont un certain Tiltom. Oh, lui, il était vraiment particulier parce que c'était un adepte convaincu de la foi scientiste chrétienne. Alors attention, à ne pas confondre avec la scientologie, ça n'a rien à voir.
Ah non, c'est pas la secte bien connue pour dévorer le budget du pauvre monde.
Non.
C'est pas la scientologie. Donc, mais si tu te rappelles, à Paris, je ne sais plus très bien où c'était, en lisière du quartier latin, il y avait une église qui s'appelait, c'est écrit sur le fronton, Église du Christ scientiste.
C'est protestant, hein, parce que peut-être on vous en a déjà parlé, mais les protestants ont des tas d'églises différentes, avec des mentalités parfois très très différentes. La seule chose qui les réunit, bien sûr, c'est le Christ et la Bible. Voilà.
Et surtout en Amérique.
Ah oui, mais je parle en Amérique.
C'est très, très éparpillé.
En France, c'est un peu moins.
Toujours est-il que ce Tiltum, qui était un adepte de cette branche du protestantisme qui nous intriguait quand nous étions gamins et qu'on passait devant, eh bien, il y a converti Lionel Hampton, qui est devenu
un adepte de ce genre de foi. Et c'est pour ça que Lionel Hampton lui a dédié un morceau qui s'appelle Tiltum Special.
Tout à l'heure, nous avons parlé de la pointe des pieds quand on change d'instrument ou de place pendant un enregistrement. Eh bien, nous y revoilà. Il s'agit d'un alto, un saxophone alto qui s'appelait Ted Purnell. Et ce jour-là, il était tellement content d'enregistrer dans les studios Victor
qu'il a fait un boucan pas possible. Il bougeait dans tous les sens. Et ça posait beaucoup de problèmes aux techniciens d'enregistrement.
Il paraît même qu'il tapait du pied de manière extrêmement bruyante. Ça s'est fini par une engueulade majuscule de l'ingénieur en chef depuis sa cabine. Il paraît que les vitres en tremblent encore. Et le pauvre Ted Purnell, bien mouché.
On lui a dédié ce morceau qui s'appelle « Tip Easy Blues », ce qui veut dire « tout doucement sur la pointe des pieds ».
Parce que figurez-vous qu'après ça, il s'est déchaussé et il a fait plusieurs fois le tour du studio sur la pointe des pieds pour se calmer. Quand il s'agit de trouver un titre, tu sais que très souvent, les morceaux ont les titres au dernier moment, quelquefois même au studio. Mais il y a même un morceau qui s'appelle « On n'a pas encore trouvé de nom ». Le type a noté comme ça la réponse à la question. Et c'est pour ça, donc, au dernier moment, que le plaisantin John Robichaud, parce que tout ça, c'était entre gens de la Nouvelle-Orléans, a baptisé le morceau que vous allez entendre.
Tipeee Blues.
C'est un orchestre dirigé par le trompettiste Lee Collins, qui est un musicien totalement méconnu, originaire de la Nouvelle-Orléans, et qui fait partie de ces gens, toujours à découvrir, à redécouvrir, parce qu'en ce qui concerne leur propre carrière, eh bien, ils sont restés modestes et ils n'ont pas fait beaucoup de battages. Alors ça, c'était le typique bon vieux blues tranquille qu'on enregistre facilement pour compléter une séance d'enregistrement.
Quand on ne sait plus, on a des morceaux, ah, on est un peu juste, oh, on va faire un blues, d'autant que tout le monde aime ça.
Ah voilà, tout le monde se retrouve autour du blues, et tu sais qu'il faut un nombre de morceaux pairs quand on enregistre une séance, parce que les 78 tours, à l'époque, c'était une face A, une face B, c'est tout, mais quand fallait-il que ça soit pair, parce que le disparate se vendait pas bien. Et là, il n'avait enregistré que trois morceaux, et vous venez d'entendre le quatrième. Et maintenant, imaginons-nous entrer au restaurant. Ah, je me souviens d'ailleurs... quelque chose comme ça. On entrait à toute une bande dans un bistrot, on s'asseyait, alors on était au moins 15, et on demandait 3 seaux d'eau et 2 douzaines de paille.
Ce qui faisait pas du tout rire le garçon parce qu'il l'avait déjà entendu 450 000 fois.
Oui, mais nous, ça nous amusait quand même. Alors, il y a une variante. Imaginons, vous êtes au restaurant, alors dans un grand restaurant, et vous demandez quelque chose comme, par exemple...
Un tartare bien cuit.
Ou un œuf en brochette.
Le garçon, ça ne le fait toujours pas rire.
Mais la tablée, alors là, on tient les côtes, là.
On s'amuse.
Surtout devant la tête du garçon. Eh bien, c'est sans doute ce qu'a fait Cootie Williams, puisque le morceau qui vient s'appelle...
Toasted Pickles.
C'est quoi des pickles ?
Les pickles, c'est des sortes de cornichons.
Eh bien, vous arrivez au restaurant et vous demandez...
Des cornichons rôtis, évidemment. Ça ne fait toujours pas rire, le garçon.
Oui, mais alors l'orchestre de Cootie Williams, qu'est-ce que ça a dû les amuser ? Nous allons terminer par une association qui a beaucoup fait parler d'elle.
Ça s'appelait le Toba.
Le Toba, T-O-B-A. Alors, et ça voulait dire quoi ?
C'était Theatre Owners Booking Association. Ça a l'air très officiel en réalité. En gros, c'était organisateur de tournées de spectacles.
Et ça s'appelait délicieusement l'association de programmation des propriétaires de théâtre, ce qui renvoie un peu au genre les amis de l'opéra comique que prenaient souvent les associations de gangsters. Parce que le Toba, naturellement...
Naturellement. C'était tenu d'une main de fer par un mélange de personnes qui connaissaient bien le milieu des Noirs, des musiciens noirs, mais aussi les milieux mafieux. Hein.
Pour reprendre un terme actuellement d'actualité, c'était une sorte de consortium.
Et les musiciens noirs, avec un humour fou, ils avaient appelé ça « Faust on Black Asses ».
Ce qui veut dire, nous allons édulcorer le propos, ce qui veut dire « coriace pour les culs noirs ». Alors comme on ne voulait pas trop vexer les organisateurs Toba, on a fait un morceau chez Benny Moten, qui s'appelait Toby, comme le chien. Ils étaient traités comme des chiens, ça revient un peu au même. Et il faut attirer l'attention dans cet orchestre de Benny Moten, qui a été le premier des orchestres célèbres de Kansas City et qui a ouvert toute une période de notre musique. Il faut attirer l'attention sur le pianiste, très jeune à l'époque.
Qui est Count Basie lui-même, mais jeune.
Jeune et qui, à l'époque, n'était pas encore comte, voilà. N'était que William Basie, simplement. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.